Chapitre 118. Partez, muscade. Deux hommes restèrent dans la rue, le pistolet au poing, tandis que M. Jacqual, passant la main dans la double corde roulée autour de son casse-tête, poussait violemment la porte et entrait le premier. Les deux porteurs de torches le suivirent, et le reste de l'escouade entra dans le même ordre que nous avons dit. La pièce dans laquelle nous avons pénétré ainsi du premier coup était une espèce d'antichambre de 3 ou 4 mètres de long et de 6 pieds de large environ. Cette antichambre, ou plutôt ce couloir, blanchi de haut en bas à la chaux, aboutissait à une porte de chêne si épaisse et si solide que les 3 coups qui frappa M. Jacqual ne retentirent pas plus que s'ils eussent été frappés sur un mur de granit. Aussi l'homme de police parut-il remplir la triple formalité pour l'acquis de sa conscience. Puis, cette formalité remplie, il tenta d'ébranler la porte, mais ce fut vainement. La porte était sourde, muette, insensible. On eût dit la porte de l'enfer. « Inutile, dit M. Jacqual, il faudrait le bélier de Duilius ou les catapultes de Godefroy de Bouillon. Où sont les rossignols, brin d'acier ?» Un homme s'avança et remit à M. Jacqual un trousseau de clés et de crochets, mais la porte ne se laissa pas plus crocheter qu'elle ne s'était laissée enfoncer. Il était clair qu'elle était barricadée en dedans. Un moment, M. Jacqual crut que cette porte n'en était pas une et qu'un artiste du plus grand talent avait tout simplement, dans un moment de caprice, peint une porte de chêne sur une muraille. « Allumez toutes les torches, dit-il. » On alluma toutes les torches, c'était bien véritablement une porte. Un autre eût poussé des exclamations ou eût fait une grimace de désappointement ou tout au moins se fût gratté le nez, mais les lèvres minces de M. Jacqual ne remuèrent même pas. Son œil fauve ne changea point d'expression. Son visage affecta au contraire la plus béate quiétude. Il rendit clé et rossignol à brin d'acier, tira de la poche droite de son gilet sa tabatière, prit une pincée de tabac qu'il sembla tamiser et raffiner entre son pouce et son index, puis, la portant à son nez, il la huma avec volupté. Il fut interrompu au beau milieu de cette occupation par un cri qui semblait pousser dans les combles de la maison et par un bruit étrange qui retentit de l'autre côté de la porte. On eût dit le bruit de la chute d'un corps tombant d'un 5e étage et celui d'un crâne éclatant sur une dalle. Puis plus rien. Aucun son perceptible, un silence effrayant, le silence de la mort. « Diable !» murmura M. Jacqual en faisant cette fois une grimace qu'il était impossible d'analyser tant elle était complexe, c'est-à-dire mélangée d'ennui, de pitié, de dégoût et de surprise. « Diable, diable » répéta-t-il sur 2 ou 3 tons différents. « Qu'y a-t-il donc ?» demanda en blêmissant le sensible Longavoine qui étudiait la figure du patron, mais sans pouvoir la comprendre. « Il y a, répondit M. Jacqual, que le pauvre garçon est probablement mort. »« Qui cela mort ?» reprit Longavoine en louchant en dedans au lieu de loucher en dehors. « Qui cela ? Vol-au-vent, pardieu !» Vol-au-vent, mort, murmurèrent en chœur les argousins. J'en ai grandement peur, fit M. Jacqual. Et pourquoi vol-au-vent serait-il mort? D'abord, j'ai cru reconnaître sa voix dans le cri que nous avons entendu, et s'il est tombé d'une 60aine de pieds, comme je le suppose, car on peut mesurer la hauteur d'une chute par le fracas qu'elle produit, eh bien, s'il est tombé d'une 60aine de pieds, il y a au moins 60 chances sur 100 pour qu'il ait été tué sur le coup, ou pour que nous le retrouvions bien malade. Le silence sinistre qui avait suivi le bruit de cette chute suivit les paroles de M. Jacqual. Puis on entendit le bruit d'une seconde chute, mais d'une chute plus légère. On eût dit que quelqu'un venait de sauter à pieds joints de la hauteur d'un 1er étage sur le parquet de la salle. Du moins, ce fut l'opinion de M. Jacqual, et malgré les arguments de Longavoine, il persista dans cette opinion qui était, on va le voir, d'une justesse admirable. 5 secondes après, on entendit, derrière la porte, le murmure d'une voix qui disait « Est-ce vous, M. Jacqual ?»« Oui, est-ce toi, Carmagnol ?»« C'est moi. » « Peux-tu nous ouvrir ?»« Je le crois, seulement il fait sombre comme dans un four, je vais allumer. »« Allume, tu as les rossignols ?»« Je ne marche jamais sans mes oiseaux, monsieur Jacqual. » Et l'on entendit le bruit d'une serrure que l'on crochetait, mais la porte sembla redoubler de résistance. « Eh bien, demanda M. Jacqual. « Attendez, j'y suis, dit Kermagnol. Il y a d'abord deux verrous. » Il tira les deux verrous. « Ah, puis une barre. Ah, diable, la barre est tenue par un cadenas. As-tu une lime ? Non. Je vais t'en passer une par-dessous la porte. » Et M. Jacqual passa en effet par-dessous la porte une lime fine et mince comme une feuille de papier. On entendit pendant une minute le bruit de l'acier qui mordait le fer. Puis Kermagnol s'écria « C'est fait !» Puis la barre retomba lourdement sur la dalle. En même temps, la porte s'ouvrit. « Ah !» dit Kermagnol en s'effaçant pour donner passage à son patron. « Nous en sommes venus à bout, tronc de l'air, ce n'est pas sans peine. » Monsieur Jacqual, à la lueur du rat de cave de Kermagnol et des deux torches, jeta un coup d'œil rapide dans l'intérieur de la salle. Elle était vide. Seulement vers le milieu gisait une masse informe et sans mouvement. L'homme de police se fit de la tête un geste qui signifiait « Je l'avais bien dit ».« Ah oui, reprit Kermagnol, vous regardez. Oui, c'est lui, n'est-ce pas ? Je l'ai reconnu à son cri, c'est ce qui m'a fait me presser. Tiens, je dis à la barbette, voilà un vol au vent qui nous souhaite le bonsoir. Il est mort ? Tout ce qu'il y a de plus mort. On fera 200 francs de pension à sa veuve, dit solennellement M. Jacqual. Maintenant, revenons à l'essentiel, examinons le terrain. Et les agents, précédés de M. Jacqual, entrèrent avec lui dans une chambre, ou plutôt dans une salle qui mérite une description toute particulière. Qu'on se figure en effet une immense rotonde construite dans toute la largeur et toute la hauteur de la maison, c'est-à-dire de 60 pieds de diamètre sur 60 pieds d'élévation, comme l'avait, d'après le bruit produit par la chute du corps de Vol-au-Vent, si judicieusement estimé M. Jacqual. Pavé en dalles avec des murs blanchis à la chaux, s'élevant des fondations au toit bâti en coupole et éclairé par une fenêtre en tabatière. C'était immédiatement au-dessous de cette fenêtre que gisait le corps de Vol-au-Vent. D'un autre côté, du côté qui donnait vers la barbette, la muraille était éventrée à une hauteur de 12 à 15 pieds. Une vieille femme, sa chandelle à la main, regardait curieusement par l'ouverture en faisant force signe de croix. L'ensemble du décor avait quelque analogie avec le temple de Vénus qui s'élève au bord du golfe de Baïa, ou plus exactement encore avec notre halo blé entièrement veuve de ses sacs de farine. Ce qui complétait cette ressemblance, c'était l'absence totale de tout meuble, ustensile et objet quelconque. Aucun vestige d'habitant, une nudité absolue, une solitude complète. On se fût cru dans les ruines de quelque construction cyclopéenne habitée autrefois par les titans. M. Jacqual fit le tour de la salle, et en accomplissant le périple, il sentit la sueur de l'amour-propre blessé perler sur son front. Évidemment, il était mystifié. Il regarda autour de lui, en haut, en bas, rien au plafond que la fenêtre par laquelle était tombé Vol-au-Vent, rien aux parois que l'ouverture par laquelle avait sauté Kermagnol. Ce point principal vérifié, on en revint à la chose secondaire, c'est-à-dire au cadavre de Vol-au-Vent, lequel, comme nous l'avons dit, gisait au-dessous de la fenêtre, nageant dans une mare de sang, les membres disloqués, le crâne ouvert. « Le malheureux, murmura M. Jacqual, moins par pitié que pour prononcer d'une façon quelconque l'oraison funèbre d'un brave mort au champ d'honneur. » « Mais comment expliquer cela ?» demanda Longavoine. « Et quelle idée a eu Vol-au-Vent de faire un saut de 60 pieds ?» M. Jacqual haussa les épaules sans répondre à Longavoine. Mais Kermagnol, prenant la parole dont son chef dédaignait d'user, « Quelle idée » dit-il. « Il est clair que Vol-au-Vent n'a pas eu d'idée du tout. Il a cru sauter du toit dans une mansarde et il a sauté du toit à un rez-de-chaussée. Ce n'est pas moi qui ferais une boulette comme celle-là. » « Et comment as-tu fait, toi ?» demanda M. Jacqual, « car je présume que tu n'as pas eu l'imprudence de faire ce que fait la barbette en ce moment, de regarder avec une chandelle avant de sauter. »« Ah ben oui !»« Voyons, j'écoute, » dit M. Jacqual, qui n'écoutait pas du tout, mais qui n'était pas fâché de cacher son désappointement sous le vide de l'attention. « Eh bien, vous savez une chose, c'est que nous sommes presque tous pêcheurs et matelots dans les villes du littoral de la Méditerranée, depuis les Martigues jusqu'à Alexandrie, et depuis Alexandrie jusqu'à Sète. » « Après, » fit M. Jacqual, le furetant des yeux de tous côtés, et ne laissant causer son acolyte que pour gagner du temps. Eh bien, continua Carmagnol, qu'est-ce que nous faisons quand nous voulons pêcher ou entrer sûrement dans le port, nous sondons le fond. Qu'ai-je fait? J'ai descendu mon fil à plomb, et quand j'ai vu qu'il n'y avait que trois brasses de vide, et fond de dalle, j'ai sauté en pliant mes jambes, ayant effleuré la gymnastique avec un pompier de mes amis. Mon cher Carmagnol, reprit monsieur Jacqual, si bon pêcheur que tu sois, j'ai peur que cette fois nous ne nous en retournions sans le moindre gardon. En effet, dit Carmagnol, je voudrais bien savoir ce que sont devenus les 60 gaillards que nous avons vus entrer dans la maison. Nous les avons bien vus, n'est-ce pas? Demanda monsieur Jacqual. Parbleu. Eh bien, évanouis, envolés, disparus, par tes muscades, le tour est fait. Oh, dit Carmagnol, 60 hommes ne disparaissent pas comme une bague, ou comme une montre, ou comme Jean de Brie, quand le diable y serait. Le diable y est, fit monsieur Jacqual, et ils n'y sont pas. Je sais bien que cette grande coquine de voûte a l'air d'un gobelet d'escamoteur, mais 60 hommes, il doit y avoir quelques doubles fonds. Où peuvent-ils être de monsieur Jacqual? Demanda Longavoine à son chef, confiant qu'il était dans l'infaillible perspicacité de celui-ci. Mais cette fois, monsieur Jacqual avait complètement perdu la piste. Morbleu, dit-il, tu comprends bien, imbécile, que puisque je ne puis m'expliquer la chose à moi-même, je ne vais pas essayer de te l'expliquer à toi. Puis, se retournant vers ses acolytes, voyons, que faites-vous là à me regarder bêtement, vous autres? Sondez les murailles avec le bout de vos bâtons, avec la pointe de vos épées, avec la crosse de vos pistolets. Les porte-gourdins, les porte-épées, les porte-pistolets obéirent immédiatement et se mirent à frapper avec acharnement contre la muraille. Mais la muraille, ainsi questionnée, répondit d'une voix mâle, mais non creuse, comme l'avait vaguement espéré monsieur Jacqual. « Décidément, mes enfants, dit-il, nous avons affaire à plus fin que nous. » « Ou, comme on dit vulgairement, ajouta Carmagnol, nous sommes refaits. » Voyons, une dernière tournée avec les porte-torches. Comme l'ordonnait M. Jacqual, les porte-torches éclairèrent alors la marche. Lui venait derrière avec son casse-tête, puis les porte-gourdins, les porte-épées et les porte-pistolets. Quiconque fut entré en ce moment et eut vu ces hommes ainsi acharnés contre les murailles, les eut pris à coup sûr pour des insensés. Lorsque les murailles eurent partout répondu non, on passa des murailles aux dalles et l'on exécuta sur les susdites dalles le même travail de martelage qu'on avait exécuté sur la muraille. Peine perdue, on ne sentait pas le moindre vide, on ne voyait pas la moindre gerçure. Au bout d'une heure de cet exercice inutile, il fallut y renoncer comme on avait renoncé au premier, et à défaut d'autres matières, se frapper sur le front pour en tirer quelque chose de plus utile que ce qu'on avait tiré des murs et du parquet. On entra donc en grande conférence. Mais comme il fut prouvé, d'après les renseignements précédemment recueillis, que cette maison n'avait pas de cave et qu'elle n'était composée que de l'antichambre et de la salle, tous les agents donnèrent leur langue au chien et trouvèrent plus simple de dire qu'il y avait là-dessous quelque mystère ou quelque magie que de chercher davantage le mot de ce mystère, le secret de cette magie. Seul M. Jacqual ne désespérait pas.